L'orchestre Dijon-Bourgogne fait sa rentrée. Deux têtes à cet orchestre d'une certaine manière, à ma gauche, comme dans certains combats. Maxime Caprélian, qui vient d'arriver, venant de Marseille à Dijon. Monsieur le directeur général, et puis le directeur musical, Joseph Bastian, qui passe pas mal de temps à Munich. Comment ça se passe entre celui qui est beaucoup plus qu'un administrateur et le musicien, Maxime Caprélian?
Ça passe par WhatsApp. Parce que Joseph, et il en parlera mieux que moi, est à Munich, mais il a aussi des engagements qui l'emmènent ailleurs, dans d'autres orchestres en Scandinavie, en Asie, et je ne sais où dans le monde encore. Et puis évidemment, de temps en temps à Dijon tout de même. Donc ça passe beaucoup par de la communication électronique. Et dès que Joseph est à Dijon, évidemment, on en profite pour se voir et pour penser ensemble le futur de l'orchestre.
Joseph Bastian, c'est un futur qui est pensé quand même longtemps à l'avance.
C'est comme ça, le temps de réflexion, le temps de planning pour un orchestre, c'est toujours une saison, deux saisons à l'avance. Donc bien sûr, on est en train déjà de travailler. On présente cette saison 25-26, mais on pense déjà à 26-27 et au futur.
Alors, expression un peu galvaudée, vous en avez repris pour 3 ans, monsieur le chef.
C'est exactement ça. Je suis très heureux de continuer le travail justement ici à Dijon, avec un nouveau directeur général, avec des structures dans la ville et dans la région qui ont été renouvelées aussi, avec de nouvelles directrices, de nouveaux directeurs aussi. Et donc, de très belles perspectives avec cet orchestre Dijon-Bourgogne.
C'est un peu un moment charnière, finalement, à Dijon comme ailleurs, Maxime Caprélian. Changement à la tête du conseil régional. Les prochaines municipales, on n'en parlera pas parce que c'est à venir. Changement à la tête de l'ESM, l'École supérieure de musique de Dijon. Vous venez d'arriver et on attend une nouvelle directrice, sous réserve d'assentiment du conseil municipal, mais on ne voit pas comment il pourrait en être autrement, à la tête de l'Opéra de Dijon. C'est un carrefour, c'est le lieu de toutes les inquiétudes ou c'est le moment de toutes les espérances?
Mais de toutes les espérances, quand il y a un renouvellement, il y a un nouveau souffle, de nouvelles envies. Et puis, moi j'ai le plaisir de constater, nouvellement arrivé, que j'étais très bien accueilli et que toutes les personnes autres, nouvellement arrivés aussi, avaient envie de travailler les uns avec les autres et dans une bonne énergie commune. Je pense que franchement, c'est un très bon signe là qui est donné à la vie musicale dijonnaise.
Donc si je pose brutalement la question « comment va l'orchestre ?», vous avez envie de dire quoi ?
Bien. Je ne vais pas non plus être dans un optimisme fou, car nous sommes sur une période qui est très resserrée au niveau financier, mais nous sommes bien soutenus. On est dans une bonne dynamique, il y a un bon travail qui est fait, donc l'orchestre va bien.
Joseph Bastian,
je confirme, et surtout, ça a été justement une de ses motivations principales pour re-signer, justement, pour ces 3 ans, à la tête de l'Orchestre Dijon-Bourgogne, c'est de voir qu'avec ces renouvellements, la volonté de travailler ensemble et justement de mettre des fonds en commun, de mettre de l'énergie en commun, a vraiment augmenté sur Dijon, mais aussi dans toute la région, et ce qui permet d'avoir une efficacité bien meilleure. Et malgré les problèmes financiers, malgré les problèmes budgétaires que toute la France, que tout le monde entier même a, de faire mieux avec le peu de moyens qu'on a.
J'ai entendu le mot région, Maxime Caprélian. On vous entend là pour cette fin septembre au 78e Festival international de musique de Besançon, à Arquesnan, avec le concours de jeunes chefs aussi. Est-ce que ça veut dire que l'orchestre va encore plus peut-être sortir de ces murs, encore que ces murs soient finalement assez indéfinis, puisque vous n'avez pas vraiment de locaux propres?
Sortir de ces murs, ce serait peut-être sortir de Dijon, ça j'aimerais beaucoup. Mon rêve, qui est partagé par Joseph, on fait un concert à Dijon, on le prépare, bien sûr, on le donne devant le public dijonnais, et par exemple, on fait ça, on répète lundi, mardi, le mercredi, on fait le concert, puis le jeudi, on est à Dole, avec le même programme, les mêmes artistes, les mêmes solistes, et bien sûr, le même chef. Et puis le lendemain, on va à Belfort, et le surlendemain, on on est à Auxerre et ainsi de suite. Ça, ce serait absolument génial. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'au plus les musiciens travaillent, au plus cela coûte des sous, puisque c'est un métier. Mais c'est un idéal auquel je tends. Vous savez, quand on a des idéaux, on tente de les atteindre. Et si on ne les atteint pas, au moins, on a fait un bout du chemin.
Parlons musique, Joseph Bastian, la part belle aux compositrices. Mais alors cette fois, ce n'est pas Hélène de Bonjour, ce n'est pas Clara Schumann ou Fanny Mendelssohn.
Oui, c'est forcément les plus connues parce qu'elles sont surtout connues grâce à leurs frères et leurs maris, ces compositrices. Et je me suis rendu compte il y a quelques années qu'en fait, il y a tout un continent de compositrices, pas seulement oubliées par l'histoire de la musique, mais vraiment activement rayées de l'histoire de la musique par les musicologues, qui étaient eux-mêmes en général des hommes. Et par leurs collègues musiciens. Il y a une très grande injustice à rectifier, et c'est entre autres une de nos préoccupations, une des choses importantes à faire, une des missions à faire en tant que musicien de nos jours, de rectifier le tir et de redonner leur place à ces musiciennes, à ces compositrices d'exception, parce qu'on veut bien sûr jouer les meilleurs, comme pour les hommes. Ça nous a permis bien sûr de découvrir des compositrices contemporaines, comme Camille Pépin, qu'on a beaucoup joué la saison passée, qu'on va rejouer cette année, entre autres, au Festival de Besançon, à Arc-et-Senans. Mais c'est aussi donner la part belle à des compositrices du 19e siècle et du début du 20e siècle, entre autres comme Amy Beach, comme Augusta Holmès, ou comme Jeanne Vieux, qu'on va jouer ici à l'Auditorium.
On a le souci, évidemment, Maxime Caprelian, dans ce cas-là, d'équilibrer le programme, parce que ces noms sont inconnus du public pour beaucoup.
Et c'est là tout l'équilibre de l'exercice. Ce que me disait Claire Baudin, qui est une musicienne qui a énormément œuvré, justement, pour les compositrices. Je parlais tout à l'heure d'idéaux à atteindre et puis au moins de faire une partie du chemin. Son idéal, c'est de dire que la moitié du répertoire musical a été écrit par la moitié de l'humanité. Est-ce vrai, est-ce faux, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un objectif. Et effectivement, il faut trouver un juste équilibre entre l'inconnu et le connu, entre ce que le public va être rassuré d'entendre et ce que nous, musiciens et administrateurs musicaux, devons faire pour renouveler l'écoute du public. Sinon, on fait comme à la Sainte-Chapelle à Paris, on joue les quatre saisons trois fois par jour, tous les jours.
Et évidemment, les compositrices ne sont pas les seules préoccupations de l'orchestre, Joseph Bastian.
Alors, parce qu'on a quand même un répertoire de base, un répertoire au centre des répertoires de tous les orchestres. C'est les grands compositeurs masculins, comme cette année Richard Strauss et puis Mendelssohn Bartholdy avec le Son Génie d'été. Donc, c'est sur le travail d'orchestre est aussi basé sur les grands canons du répertoire d'orchestre, donc qu'on s'applique aussi à jouer cette année. Et pour notre concert du Nouvel An, on va aussi dans ce que tout le monde attend dans un concert du Nouvel An, c'est d'avoir une valse de Strauss. Donc, forcément, notre concert du Nouvel An aura une polka et une valse de Strauss à côté des compositrices.
La fonction essentielle de l'orchestre, Maxime Caprelian, évidemment. Jouer les musiques, alors qu'elles soient dans le répertoire ou un petit peu à côté, histoire de les faire connaître. Mais il y a aussi une sorte de fonction éducative.
Alors, j'en vais aller plus loin qu'une fonction éducative. C'est une fonction indispensable à la vie de la société. L'orchestre, c'est une petite société dans la grande société, avec ses rapports humains, ses hiérarchies, etc. Donc, pour être présent dans la ville, il faut aussi qu'on ait une action éducative, une action sociale, et qu'on aille vers des publics qui, par eux-mêmes, n'iront pas au concert.
Comment on les aborde, ces publics-là? Parce que ce sont des publics qui souvent écoutent du rap en streaming. Je caricature à peine.
Oui, ou même qui n'écoutent pas de musique. Malheureusement, ça arrive. On va les voir. On ne peut pas les amener. C'est fini, André Malraux, qui fait construire des maisons de la culture partout, qui sont nécessaires, qui étaient nécessaires à son époque, hein, et qui existent toujours. Maintenant, ça s'appelle des scènes nationales. Mais le temps a changé. Maintenant, il suffit effectivement d'ouvrir son téléphone, d'aller sur une plateforme dont je ne citerai pas les noms parce qu'il y en a beaucoup, et on écoute de la musique. Et la musique que l'on veut et que l'on choisit. Donc on va vers ces publics et de différentes manières. Ça peut être des gens qui ne peuvent pas sortir, par exemple, à l'hôpital, qui ne peuvent pas se déplacer. Donc on va vers eux dans les espaces communs des hôpitaux, les couloirs, les salles de repos, etc. Ça peut être l'initiation à la musique auprès des plus jeunes, voire des tout petits, qui se passe soit dans les écoles, mais le plus souvent tout de même dans les centres sociaux à l'intérieur des quartiers. Par exemple, c'est évidemment l'orchestre des quartiers le premier qui est concerné, mais on a beaucoup d'autres choses. Puis après, il faut quand même faire venir et montrer que la musique, c'est un métier, et qu'un métier, ça se fait dans un lieu, comme pour tout métier. Notre lieu, c'est évidemment les salles de concert, les auditoriums, etc. Donc, beaucoup de nos répétitions sont ouvertes aux scolaires, et on est en lien avec les enseignants, avec l'éducation nationale, bien sûr, pour organiser et planifier quelle classe de quel établissement va venir écouter l'orchestre au complet dans la fosse de l'opéra ou en musique de chambre sur les répétitions que nous pouvons leur ouvrir.
La fosse de l'opéra, les projets cette année?
Oh ben là, la saison est faite et annoncée. Cavalleria Rusticana et Pagliacci, qui est un duo lyrique, deux petits opéras de 50 minutes chacun, souvent accolés ensemble, des histoires d'amour, de mort, de sang, italiennes bien sûr, qui seront données au mois de novembre. Il y a, après un grand classique italien, là encore, La Bohème de Giacomo Puccini, et je défie quiconque de ne pas verser une larme sur la dernière note de cet opéra. Pour terminer la saison au mois d'avril, alors la saison de l'ODB ne sera pas terminée, mais la saison lyrique de l'opéra, oui, c'est un grand classique parmi les classiques, Don Giovanni de Mozart.
Sans détailler beaucoup plus, parce qu'il y a heureusement beaucoup d'autres choses, la musique de chambre aussi, ça aussi c'est une occasion d'entendre les musiciens de l'orchestre hors les murs, parce qu'on est peut-être moins exigeant sur essentiellement la taille des lieux.
Alors, évidemment, sur la taille des lieux, mais aussi leur configuration, cela permet d'aller dans des endroits où il n'y a pas toujours des concerts ou qui ne sont pas un lieu d'usage de concerts. Et puis, concrètement, la musique de chambre, c'est plus léger, donc plus mobile et un petit peu moins cher aussi, bien sûr. Donc, il y a une saison en parallèle qui, là, n'est pas programmée par Joseph et moi, mais par les musiciens eux-mêmes qui présentent des projets.
Ça fonctionne à partir de quoi ? L'envie ?
L'envie. Oui, c'est aucun musicien n'est obligé de faire de la musique de chambre, donc c'est l'envie, le plaisir de jouer ensemble qui prédomine et ce qui permet la réussite des concerts.
Joseph Bastian, quelles sont vos envies à vous ?
Ah ben forcément, il y a une des grandes envies, mais qui est censée se réaliser assez bientôt, pas encore la saison prochaine, mais dans une saison future, c'est bien sûr l'opéra, de voir mon orchestre aussi en fosse, pas seulement sur la scène. Et dans les envies, bien sûr, on va continuer le travail avec le répertoire de base. On a fait du Beethoven l'année passée, du Mendelssohn cette année, Richard Strauss aussi, donc on va continuer dans cette lignée-là pour les prochaines saisons. Et bien sûr, continuer le travail de remise au goût du jour des compositrices, donc rectifier le tir sur ce chapitre-là, c'est une chose qui me tient vraiment à cœur et que j'essaie d'apporter partout avec moi dans mes valises de chef d'orchestre. Quand je suis invité dans certains orchestres, je vois dans le monde entier que c'est toujours un peu compliqué, que c'est pas toujours facile de, entre guillemets, vendre une compositrice ni à l'orchestre ni à son public, mais là où on le fait, je l'ai fait il n'y a pas très très longtemps en Asie, je l'ai fait il y a quelques mois en Amérique du Sud, au Brésil, où autant le public que l'orchestre, donc les musiciennes et les musiciens, que aussi le management des orchestres, sont enchantés par ça quand on leur propose ça et que ça devient un très très grand succès et que ça permet aussi au public, aux musiciens, de voir des nouvelles œuvres. Mais des nouvelles œuvres qui devraient et qui vont être au canon des orchestres au même niveau, avec la même légitimité qu'un Mendelssohn ou bien qu'un Beethoven, justement. Donc ça, c'est une des grandes envies, c'est un des grands chemins qu'on va continuer de parcourir avec l'ODB pour ces trois prochaines années.